Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens. Mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Dixit Gérald Darmanin, 4 policiers suspendus après les violences contre un homme à Paris. Le ministre de l'Intérieur va demander leur révocation. Des policiers qui risquent les assises, on va vous expliquer pourquoi. Le gouvernement renforce les aides pour les entreprises en difficulté, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Des aides de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. En France, les taux se desserrent, les indicateurs sont bons. Nous sommes même parmi les meilleurs élèves de l'Europe, meilleurs encore que les Allemands. Dans ce journal, la France envoie un nouvel avion d'aide humanitaire pour les Arméniens obligés de quitter le Haut-Karabakh. Ils ont tout perdu.
On voit des photos postées par les soldats azéris dans notre village, dans nos maisons. C'est dur pour nous, mais on a l'espoir d'y retourner un jour.
Et puis nous irons à Buenos Aires qui célébrait hier le culte de Diego Maradona, défilé ininterrompu devant son cercueil avant l'enterrement dans l'intimité familiale.
Juste après ce journal, patronat et syndicats qui se mettent enfin d'accord sur un cadre pour le télétravail. L'éclairage écho de Nicolas Barret juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Les footballeurs français qui dénoncent le tabassage de ce producteur de musique parisien par des policiers, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ces images, elles ont été vues 9 millions de fois. Des policiers qui se déchaînent à coups de poing sur un homme dans l'entrée d'un studio de musique parisien. Elles sont issues de la vidéosurveillance et ont fait le tour des réseaux sociaux toute la journée d'hier. Les 4 policiers impliqués sont donc suspendus. D'abord les 3 qui avaient frappé, puis le 4e arrivé en renfort qui a lancé une grenade lacrymogène. Guillaume Bié, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans cette affaire, les policiers sont évidemment accusés de violence, mais pas seulement. Ce que vous nous dites, c'est qu'ils auraient aussi menti sur le procès-verbal par rapport à ce qu'on voit sur les images.
Ah oui, il y a un large fossé, presque un gouffre entre les deux versions. Dans le procès-verbal d'intervention que nous avons pu consulter, l'un des policiers écrit « Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de force dans l'enceinte du bâtiment. » Or, ce n'est pas du tout ce que montrent les images. Dans la débâcle, poursuit le rapport, l'homme tente à plusieurs reprises de saisir notre arme. Invisible sur la vidéo, démenti par la victime. Tout comme la suite, nous recevons à plusieurs reprises des coups au visage. En réalité, c'est sur le producteur que des dizaines de coups pleuvent longuement. Pourtant, ils ne sont jamais mentionnés dans le procès-verbal. Tout juste, le fonctionnaire évoque à 2 reprises des coups de matraque télescopique dont l'individu parvient à se saisir, peut-on lire, ce que l'on ne voit pas sur les images. Voilà pourquoi le parquet de Paris a ouvert une enquête pour les violences, mais aussi pour faux en écriture publique, un soupçon encore plus grave pour les policiers. C'est un crime qui pourrait les conduire devant une cour d'assises.
Merci Guillaume Bié.
On va écouter Gérald Darmanin à présent. Il était invité hier soir du 20h de France 2, le ministre de l'Intérieur qui compte révoquer ces policiers.
Ces images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celles-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doutes, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale. Si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes qui font, dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice.
Et selon nos informations, Emmanuel Macron était très en colère en découvrant la vidéo. Lors d'une entrevue à l'Élysée, il a demandé à Gérald Darmanin de l'apaisement, mais aussi des sanctions très claires. Une commission indépendante va également proposer une nouvelle écriture du fameux article 24 de la loi Sécurité globale. Article qui concerne, vous le savez, la diffusion d'images de policiers.
7h05 sur Europe 1. Le confinement s'allège. À partir de demain, balade jusqu'à 20 km pendant 3 heures et réouverture des commerces, mais avec une jauge de 8 mètres carrés par client.
Oui, les entreprises touchées de plein fouet par la crise auront droit à une aide de 15 à 20% du chiffre d'affaires. Ça concerne notamment l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel. Les stations de ski pourront rouvrir, mais pas les remonter. De quoi plonger cet hôtelier des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie dans des abîmes de perplexité, comme il l'a dit à Carole Ferry.
Évidemment, François Gauthier a été soulagé en écoutant les annonces de Jean Castex. Propriétaire d'un hôtel de 40 chambres face au Mont-Blanc, il sait désormais qu'il aura droit à un filet de sécurité s'il perd plus de la moitié de son chiffre d'affaires cet hiver. Ça, c'est pour l'hôtel, mais il a aussi un bar, un restaurant, de la location de ski. Bref, un vrai casse-tête en perspective.
Quand on parle de 15 à 20% pour l'hôtellerie, ce n'est pas pareil que 20% pour la partie restauration, ce n'est pas pareil que 0% pour la partie location de ski. Et nous avons des activités qui sont en fermeture administrative, d'autres qui ne le sont pas. Donc les questions se posent et de voir comment on va organiser tout ça.
Sa priorité toutefois pour le moment, c'est d'ouvrir le 15 décembre. Des clients lui ont promis de venir même s'ils ne peuvent pas faire de ski. Alors il faut être ingénieux.
Nous allons essayer d'ouvrir avec la possibilité d'offrir à chaque chambre réservée un espace privatif de restauration dans lequel les gens pourront prendre librement leur repas du soir dans l'hôtel.
Avec des repas en click and collect, alors il ne sait pas si cette fin d'année sera rentable, mais ce qu'il souhaite surtout, c'est faire plaisir à ses clients pour les revoir l'année prochaine.
Et puis une aide est également prévue pour les saisonniers. Ils auront une garantie de ressources de 900 euros par mois jusqu'en février prochain.
Des annonces de Jean Castex qui nous demandent de ne pas baisser la garde face à l'épidémie.
15 000 cas quotidiens de Covid en moyenne sur les 7 derniers jours. Nous sommes parmi les meilleurs élèves européens et même devant l'Allemagne, Victor Delande.
Oui, alors il faut d'abord préciser que les Allemands n'ont pas les mêmes restrictions qu'ici. On parle là-bas de semi-confinement. Les bars et les restaurants sont fermés depuis le 28 octobre, mais tous les magasins sont restés ouverts et les habitants peuvent aller et venir sans contrainte. Reste que si on regarde les chiffres, l'Allemagne a enregistré 18 000 nouveaux cas quotidiens lors des 7 derniers jours. C'est 3 000 de plus qu'en France. Le taux de reproduction, lui, est bien inférieur dans l'Hexagone, 0,56 contre 0,87 en Allemagne. Le nombre de décès chaque jour est presque équivalent entre les deux pays. Enfin, si on regarde les admissions en réanimation, elles restent inférieures de l'autre côté du Rhin, 3 800 contre un peu plus de 4 000 en France. Mais les courbes sont en train de se croiser. Là où la décrue s'accélère, ici, l'Allemagne connaît, elle, un plateau haut et prolongé. Mais attention à toute forme de chauvinisme sanitaire. Nous ne disposons pas des mêmes réserves. Quand les hôpitaux français comptent 9 000 lits de réanimation en poussant les murs, il y en a près de 3 fois plus en Allemagne.
Victor Delande.
Je reçois tout à l'heure l'ancien footballeur Youri Djorkaeff, champion du monde 98, mais aussi ambassadeur pour une mission humanitaire en Arménie.
Oui, il s'envole en effet tout à l'heure à bord de l'avion cargo affrété par la France, le deuxième qui doit apporter de l'aide aux populations arméniennes qui vivaient dans le Haut-Karabakh et ont été chassées par l'offensive de l'Azerbaïdjan. Hélène Terzian, bonjour.
Bonjour.
Plus de 100 000 personnes se sont retrouvées sur les routes.
Oui, ces Arméniens ont tout laissé derrière eux. Certains sont même allés jusqu'à brûler leur propre maison pour ne pas qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. On a vu des images d'exode, des routes encombrées, de voitures surchargées. Siranouche est une mère de famille. Elle a quitté son village de Talish, là où elle a toujours vécu.
On est parti sans rien, sans affaires, sans vêtements, sans rien. On n'avait qu'une préoccupation, c'était de sauver les enfants des bombardements. En partant, jamais on aurait cru que le village passerait sous contrôle azéri. Depuis, on vit là, on attend ce que va nous dire l'État. Les seules nouvelles qu'on a de chez nous, on les a sur Internet. On voit des photos postées par les soldats azéris dans notre village, dans nos maisons. C'est dur pour nous. Mais on a l'espoir d'y retourner un jour.
Retourner un jour au Haut-Karabakh, là où son fils et son mari sont restés après avoir combattu. Ce sont majoritairement des femmes qui se réfugient aujourd'hui en Arménie avec leurs enfants. Des réfugiés dont la présence est un défi majeur pour l'État et les associations humanitaires. Il a fallu mobiliser des hôtels, des structures d'accueil et même des familles pour trouver un logement à chacun d'entre eux.
Hélène Terzian et donc Youri Djorkaeff à 7h40. Aux États-Unis, Donald Trump reconnaît progressivement sa défaite pour la première fois. Il annonce qu'il quittera la Maison-Blanche si les grands électeurs élisent Joe Biden le 14 décembre prochain. Vote qui ne sera qu'une formalité.
Des cris, des pleurs et surtout des maillots bleus et blancs. L'Argentine faisait hier ses adieux à son idole, Maradona.
Toute la journée, des milliers de personnes ont défilé devant son cercueil au palais présidentiel, la Casa Rosada. Des fans, parfois déchaînés au point que des incidents ont éclaté. éclaté avec les forces de l'ordre, récit de la correspondante d'Europe 1, Aude Villiers-Moriamé.
Lorsqu'est venu le moment de fermer la chapelle ardente au public, peu avant 16h, des affrontements ont éclaté entre la police et les supporters qui étaient encore très nombreux à vouloir entrer à la Casa Rosada pour rendre un dernier hommage à leur idole. Des heures de chaos ont suivi, la police a tiré des balles en caoutchouc, plusieurs personnes ont été arrêtées. Le calme n'est revenu qu'en fin d'après-midi lorsque le cortège funèbre a quitté la Casa Rosada. De nombreux motards et automobilistes ont accompagné le corbillard sur la route du cimetière. La journée avait pourtant commencé dans le calme. Dans la matinée, des milliers de personnes ont attendu patiemment leur tour pour entrer au palais présidentiel, comme Cecilia Castro, 38 ans.
D'un côté, je suis contente que tant de personnes soient venues lui dire au revoir. Il le mérite. Mais d'un autre côté, je suis triste. Je n'ai plus de larmes après tout ce que j'ai pleuré hier. Je ne pouvais pas y croire.
Adriane Benardoni, 33 ans, était venue rendre hommage à l'ancien joueur en famille avec son épouse et son bébé. Il est ressorti de cette veillée funèbre très ému.
Il a apporté beaucoup de joie aux gens et il méritait qu'on lui dise adieu de cette façon. C'est une légende, une idole mondiale.
La dépouille de Diego Maradona a été enterrée dans la soirée au cimetière de Bechavista, en grande banlieue de Buenos Aires. L'ex-joueur star repose désormais aux côtés de ses parents. Aude Villiers-Moriamé, Buenos Aires, Europe 1.
Et Hélène, est-ce que vous connaissez Carlos Bilardo ?
Personnellement, non.
C'est l'ancien entraîneur de l'équipe d'Argentine. Il a aujourd'hui 82 ans. Il ne sait toujours pas que Diego Maradona est mort. Voulez-vous le raconter ? Sa famille a préféré lui cacher la nouvelle à cause de sa santé fragile. Il disait toujours de Diego Maradona qu'il était le fils qu'il n'avait pas eu.
Et puis en Italie, hier soir, les joueurs de Naples sont tous entrés sur le terrain avec le même maillot, le numéro 10 de Maradona.
Avec ces images des supporters que vous avez peut-être vus autour du stade, ce qui s'appellera stade Diego Maradona, des fumigènes rouges. Et dans les rues de Naples, on a célébré la mémoire de Diego Maradona.
Et puis les joueurs, ils ont gardé ce maillot le temps de la minute de silence avant d'entamer la rencontre de Ligue Europa contre les Croates de Rijeka. Et ils l'ont d'ailleurs emporté 2-0. En revanche, Nice, battu 3-1 par le Slavia Prague, est quasiment éliminé.
Les pompiers qui sonnent à votre porte pour vous vendre le traditionnel calendrier avec images d'intervention ou joli chaton, c'est au choix. Ça ne risque de ne pas arriver cette année.
Eh oui, porte-à-porte impossible, mesures sanitaires obligent. Reste une seule solution, le vendre sur Internet, ce calendrier. Mais forcément, ça ne marche pas aussi bien. Mélina Fachin s'est rendue dans une caserne de Strasbourg.
Il est bien là, imprimé à des milliers d'exemplaires dans de grands cartons, le calendrier 2021 des pompiers de Strasbourg. Mais cette année, le commandant James Fridley et ses hommes ont dû renoncer à contre-cœur à le vendre en porte-à-porte.
Ça permet d'avoir un contact avec la population. C'est aussi une reconnaissance de la population à notre égard. Les gens veulent nous remercier et nous récompenser en fait en achetant notre calendrier. Ce contact avec la population permet parfois de développer des vocations à devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel. C'est quelque chose qui va nous manquer.
Et puis il y a l'aspect financier. Le calendrier a rapporté 60 000 euros l'année dernière aux pompiers de Strasbourg. Une enveloppe, comme l'explique l'adjudant Sandy Maître d'Hôtel, qui permet d'améliorer le quotidien des casernes.
C'est un petit peu une deuxième maison. Donc cette cagnotte nous permet l'achat de canapés, d'abonnements à différents paquets de télévision, du matériel audio, des petits conforts comme ça, qui permettent effectivement, sur les périodes de repos, d'avoir un confort qui soit présent.
Les Strasbourgeois qui veulent aider leurs pompiers peuvent donc acheter leur calendrier en ligne sur le site Hello Asso. Pour l'instant, moins d'une centaine ont été vendues contre 15 000 l'année dernière. Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1.
Et Mathieu, si vous voulez l'acheter ce calendrier, vous allez sur le site helloasso.com.
Merci Hélène Zélani, c'est très clair, c'est précis, on a même le mode d'emploi. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.